Week-end première.
Peut-être que les animaux aussi rêvent, en tout cas on parle d'eux avec vous Didier Demorty. Vous nous emmenez donc à nouveau dans la savane africaine hein, pour nous parler de la dure vie des prédateurs et de la chasse à l'épuisement.
Effectivement. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question, Charlotte. À votre avis, que font les gazelles quand elles aperçoivent un lion ?
Eh bien, il me semble qu'elle devrait fuir, en tout cas.
Ben exactement, c'est exactement ce que nous pensons tous et toutes. Moi aussi, je pensais ça. Mais en fait, non. Quand des gazelles repèrent un de leurs nombreux prédateurs, elles ne s'enfuient pas. Elles se rapprochent, prudemment certes, mais elles se rapprochent. En fait, elles cherchent à comprendre dans quel état d'esprit se trouvent leurs dangereux voisins. Car oui, dans la savane, les herbivores et les carnivores cohabitent. Depuis des centaines de milliers d'années, proies et prédateurs fréquentent les mêmes lieux, s'abreuvent au même point d'eau et s'abritent sous les mêmes arbres. Lions et gazelles se croisent matin, midi et soir. Et donc, si à chaque fois qu'elles rencontrent une lionne, les gazelles devaient s'enfuir à toute allure, elles tomberaient vite d'épuisement. Il suffit d'ailleurs d'observer une lionne passer des heures sous le soleil à se faufiler à l'abri des hautes herbes afin de se rapprocher d'un groupe de gazelles pour se rendre compte à quel point ces deux espèces voisines ont co-développé des performances corporelles quasiment équivalentes. À la puissance des lionnes répond l'explosivité des gazelles. Entre attaque surprise et fuite instantanée, vie ou mort se joue à une fraction de seconde près.
Il est donc si difficile pour des lions de capturer des gazelles ?
Eh oui. Pour qu'une lionne puisse espérer capturer une gazelle, il faut qu'elle soit parvenue à s'en approcher à moins de 7 mètres. À 15 mètres, ses chances de succès sont nulles. Car, une fois lancées, les gazelles peuvent courir à plus de 70 km/h, effectuer des bonds de 2 mètres de haut et de 6 mètres de long, prendre des virages extrêmement serrés, zigzaguer, se croiser et se recroiser sans cesse, formant ainsi une image déroutante et changeante, une sorte de halo flou et indistinct. Poursuivre un individu précis dans ces conditions est une véritable gageure. En moyenne, les lionnes ne réussissent à atteindre leur cible qu'une fois sur 6, 15% de réussite seulement. Sans oublier qu'en plus de ces capacités physiologiques exceptionnelles, les gazelles, comme toutes les espèces d'herbivores, ont développé des comportements collectifs d'aguets qui permettent à toutes de bénéficier de la vigilance de chacune et également de propager rapidement des messages d'alerte lorsqu'un danger se présente. Des signaux vitaux donc, différents pour chaque espèce de prédateur, que les jeunes apprennent à interpréter dès la naissance et que les espèces voisines savent aussi décoder. Se rapprocher, s'immobiliser, orienter les oreilles, pointer la menace du corps ou de la tête, hérisser son pelage, redresser la queue, bondir ou sautiller sur place, émettre des grognements ou des cris particuliers, etc. La vie des grands fauves n'a donc rien d'une sinécure. Mais malheureusement pour les gazelles et leurs voisines, un autre genre de carnassier rôde dans la savane. Un nouveau venu qui chasse de jour et à découvert, qui poursuit ses proies des heures durant et qui réussit à les abattre alors qu'il ne possède ni griffes ni crocs, juste des silex et des lances en bois durcies au feu, des armes bien modestes finalement, face aux cornes acérées, aux charges et aux ruades féroces des herbivores.
Je crois que c'est de nous que vous parlez.
Effectivement. Enfin, quand je dis nous, je veux parler de notre ancêtre direct, Homo erectus. Selon les partisans de la théorie du coureur de fond, dont je suis, à l'avènement de cette nouvelle espèce reposerait essentiellement sur le développement d'un mode de locomotion révolutionnaire. En plus d'être bipèdes, ces erectus seraient les premiers êtres humains à s'être spécialisés dans la course d'endurance.
Ce qui les aurait donc rendus capables, c'est Homo erectus de se lancer dans une sorte de chasse à cour.
C'est bien ça. Les erectus étaient en fait passés maîtres dans l'art de la chasse à l'épuisement. Tout d'abord, il s'agissait de repérer parmi leurs voisins herbivores un individu mal en point, blessé, malade ou trop âgé. Ensuite, il fallait se rapprocher au plus près de la cible et délibérément la mettre en fuite. Et c'est là que leur nouveau talent de marathonien et de marathonienne se transformait en une arme redoutable. Calmement, patiemment, obstinément. Ses érectus suivaient leur proie en la surveillant de loin et en la dérangeant sans cesse, en la relançant à la course au moindre arrêt, en l'empêchant systématiquement de se reposer et de reprendre son souffle. Cela pouvait durer des heures. Mais une fois la bête épuisée, haletante, en manque d'oxygène, les muscles tétanisés par la prolifération de substances toxiques, une fois leur prise à bout de force et de courage, les nouveaux prédateurs s'avançaient la mort à la main. Mais n'est-ce pas là, me direz-vous peut-être, Charlotte, un exemple de cette fameuse survie du plus fort dont vous nous dites tant de mal, Didier, tout au long de vos chroniques? Eh bien non. Car affronter des êtres aussi habiles et performants, les poursuivre durant tout ce temps, déjouer leurs tours et détours, anticiper leur trajectoire, repérer leurs traces, interpréter leurs empreintes, connaître leurs ruses, esquiver leurs contre-attaques, et pour finir, réussir à les achever, requiert de la part des prédateurs un niveau de coordination et de coopération extrêmement élevé. Les lionnes elles-mêmes, lorsqu'elles se décident à chasser en bande, multiplient par deux leurs chances de réussite. Ici encore, partage et entraide font plus que force et rage.
Ça sonne comme une fable de La Fontaine, évidemment.